Découvrez la chronique éco-citoyenne pour les ados par Nathalie Zapiro-Manoukian.
Il y a lenteur et lenteur, il y a ceux qui le sont seulement en début de journée, il y a ceux qui sont lents parce qu'ils aiment prendre leur temps, mais la lenteur peut prendre aussi un tout autre visage et cacher parfois des tocs ou de la dyspraxie.
On peut être lent parce qu'on a envie de prendre son temps, parce que c'est un acte volontaire. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au Québec, on a lancé le 21 juin la Journée internationale de la lenteur, que des villes en France et dans le monde se disent « sit slow », on est ville lente, par opposition à tout ce qui est fast-food et tout ce qui est opposition au fait d'aller très vite tout le temps, de passer à côté de plein de choses. Et là, évidemment, c'est un acte réfléchi, c'est volontaire, c'est de se dire, par exemple, je vais prendre le temps d'une promenade pour observer la nature. C'est tout à fait normal, ça n'a rien de pathologique. On pourrait même dire que c'est le fait d'être trop rapide tout le temps et trop speed qui serait pathologique. Mais c'est un peu différent, évidemment. Vous nous dites notre adolescent qui est lent. Alors, il y a comme les adolescents, comme les enfants, comme les adultes. Vous avez des gens du soir et du matin, ce que vous avez dit tout à fait justement tout à l'heure. Et puis, il y a des gens qui sont un peu au milieu. Il y en a même une majorité. Il y a des gens du matin, ils se lèvent à l'heure des poules et ils sont en pleine forme le matin tout de suite. Ils ont envie de faire plein de choses. Ils partent faire du jogging, de la natation. Ils ont déjà fait le ménage. Ils vont à l'école. Ils sont tout de suite en forme puisqu'on parle des ados. Hein, sinon, ça pourrait être du travail. Mais alors, au fur et à mesure de la journée, ils deviennent un petit peu fatigués. C'est vers 17h, il ne faut pas trop leur en demander. Et à 20h, il n'y a plus personne.
Voilà. Après, c'est des couches tôt généralement.
Voilà, c'est des couches tôt. Vous avez à l'inverse, les gens du soir, vous paraître lente le matin, surtout si c'est votre ado qui est dans ce cas-là, c'est qu'avant midi, en gros, leur cerveau n'est pas réveillé. Vous avez beaucoup de mal à les réveiller. Après, ils s'habillent, ils perdent un temps fou, ils déjeunent, ça s'éternise. Vous passez leur temps à leur crier dessus parce qu'ils sont en retard, etc. Mais au fur et à mesure de la journée, c'est l'inverse. Ils se sentent de mieux en mieux. Passer le cap des midis, ils commencent à trouver la forme. Arrivé à 17h, eux, c'est leur vitesse de croisière. Et le soir, à minuit, ils ont presque du mal à se coucher. Et vous avez quand même 70% de Français, donc une grande majorité, plus des deux tiers, qui sont un peu entre les deux. Maintenant, il y a des gens qui sont lents tout le temps. Quand est-ce que ça devient pathologique? On se fait toujours une référence aux autres. Si on passe sa vie à dire à un ado « Mais dépêche-toi, je t'attends », etc., il faut se poser des questions. Pareil, si en cours, c'est le seul à ne pas finir son devoir à temps. C'est-à-dire que c'est un élève qui, ma foi, peut être bon élève, mais va perdre des points parce qu'il n'a jamais fini son devoir. Quand même, ça pose question. Parce que plus vous avancez dans les études, plus il faut écrire vite, plus il faut être rapide. Et donc, plus il va perdre de points. Alors que c'est un élève qui vous dit « mais je savais la réponse, j'ai pas eu le temps de la mettre ». Donc c'est rageant. Là, ça mérite consultation parce qu'on peut tomber sur une dyspraxie. Alors c'est quoi une dyspraxie? C'est juste un trouble du passage, des difficultés pour passer de la pensée à l'écrit ou pour s'organiser. Donc c'est un enfant ou un ado qui va mettre beaucoup plus de temps que les autres à organiser son plan, à faire son écrit, alors qu'il sait tout ce qu'il va mettre dedans. Ça se réduit très bien, autant le savoir. Si vous ne consultez pas, il ne se passera rien. Il faut faire un bilan avec un psychologue. C'est des psychologues cliniciens qui font le bilan. Et après, c'est rééduqué soit par le neuropsychologue, soit par le psychomotricien. Ça peut aller de 10 à 20 séances et il y a une nette amélioration. Si, par contre, si vous ne consultez pas, si vous ne faites rien, c'est presque un enfant. D'abord, c'est un enfant ou un ado qui va vite se décourager et qui va perdre des points et qui peut se retrouver dans une spirale de l'échec alors qu'il a une intelligence tout à fait normale. La dyspraxie ne touche que des enfants ou des ados à intelligence normale.
Et est-ce qu'il peut y avoir un facteur stress aussi?
On peut être très anxieux. Voilà, on peut se dire la peur de mal faire. Alors pourquoi? Peut-être parce que l'enfant a un tempérament anxieux, peut-être parce que les parents lui mettent trop la pression, peut-être parce qu'il y a un enjeu important à la fin de cet examen ou de cette année scolaire. L'enfant ou l'ado est tellement angoissé à l'idée de mal faire que, par exemple, il va relire 10 fois. Il va faire un brouillon très appliqué avant de se lancer directement dans sa copie. Donc tout ça, évidemment, il va perdre du temps. Et comme il va perdre du temps, il va paraître lent. Le psychologue clinicien fera aussi très bien la différence. Il y a les gens qui ont tendance aussi à remettre tout au lendemain.
La procrastination, la fameuse procrastination.
Ça peut être par angoisse ou parce que au moment de le faire, ça demande un tel effort que si vous voulez, c'est plus pratique de remettre pour le cerveau, de se dire « je vais remettre au lendemain ». Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont tellement cumulé de retard que pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile de surmonter l'obstacle, de tout rattraper. On doit y aller par petites étapes. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme ça, au lieu de se dire, par exemple, « je vais faire tout mon exposé pour telle date », eh ben, je vais faire mon introduction aujourd'hui. Je vais faire mes recherches sur telle partie de paragraphe demain. Je vais faire telle autre recherche après-demain. C'est-à-dire qu'il doit fractionner. Et ça paraît déjà beaucoup moins insurmontable. Bon, et après, vous parliez des TOC. On n'est pas vraiment dans la lenteur, mais ça peut paraître comme une lenteur si vraiment les gens ne voient pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est obligé de faire des rituels pour compenser une angoisse. Il va être, par exemple, obligé de se laver 20 fois par jour les mains ou de vérifier 50 fois que la porte est bien fermée ou que tel calcul est bon ou de partir dans des petits rituels en disant, par exemple, si je ne compte pas 3 fois de suite jusqu'à 50, il va arriver malheur à un proche. Donc, effectivement, si vous devez compter 3 fois de suite jusqu'à 50 au moment de faire votre copie de maths, vous avez déjà perdu. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc cette fois, c'est le médecin qui va le prendre en charge. Et pareil, il y a des thérapies qui marchent bien, il y a des médicaments aussi. Mais si vous ne consultez pas, vous ne le saurez jamais. Un ado qui est anormalement lent, c'est anormalement dans le sens où il y a une trop grande différence par rapport au reste de la classe, il vaut mieux consulter pour rien, quitte à rassurer tout le monde, parce que cet ado est peut-être angoissé, et s'il apprend après tout qu'il est normal et que c'est juste un trait de caractère, eh ben, ça va diminuer son seuil d'angoisse et il va y aller plus franchement la prochaine fois. En tout cas, il faut consulter au moindre doute.
C'était la chronique ado par Nathalie Zapiro-Manoukian. Pour la réécouter, rendez-vous sur le www.radioéthique.com.